Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Danny Boone à l'affiche du film Le Lion, une comédie déjantée avec Philippe Catherine dans le rôle d'un psy, pléonasme, presque. On en parle dans un instant, on s'en réjouit. Et puis dans les indispensables, le meilleur des films à voir cette semaine, en plus du Lion évidemment, et de la musique avec un fervent défenseur de la musique celtique, le mot est faible, c'est presque lui qui l'a inventé en France, Alan Stivell. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui commence par une disparition, celle de l'écrivain français Hubert Mingarelli.
Lauréat du prix Médicis en 2003 pour 4 soldats, son dernier roman, La Terre Invisible, avait été sélectionné au dernier prix Goncourt. Il a également reçu le prix Landerneau et le prix Louis Guillou en 2014 pour L'Homme qui avait soif. Hubert Mingarelli est décédé à l'âge de 64 ans. Ses premiers livres étaient publiés en sélection jeunesse. Il s'était lancé dans l'écriture en 1990. Hubert Mingarelli était le seul Français avec Annie Ernaux à figurer l'an dernier dans la sélection du prestigieux Man Booker International Prize.
International, ça c'est de l'accent. La détention provisoire du rappeur MHD prolongée de 6 mois.
Accusé d'homicide volontaire après une bagarre mortelle à Paris, le rappeur de 25 ans risque également 30 ans de réclusion criminelle. Placé en garde à vue le 15 janvier 2019, il a mis sa carrière en arrêt. Depuis, le rappel des faits, 2018, un jeune homme de 23 ans avait été battu à mort par plusieurs personnes. L'enquête avait désigné MHD comme l'un des principaux responsables, puisque c'est sa voiture qui a renversé la victime. La victime donc battue à mort. Un témoin a clairement identifié l'artiste, en plus d'une vidéo amateur. MHD a toujours nié son implication dans cette affaire en affirmant avoir prêté son véhicule ce soir-là.
Beaucoup plus joyeux, hier soir a eu lieu la cérémonie des Lumières de la presse internationale, un point sur le palmarès.
L'Académie des Prix Lumière, composée de 130 correspondants de presse, représentant plus de 40 pays, a récompensé Roman Polanski pour son dernier film J'accuse et Les Misérables de Ladjli, également en lice aux Oscars. La cérémonie des Lumières a également distingué Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec 2 prix, meilleure actrice pour Noémie Merlant et meilleure image pour Claire Maton.
Et puis on reparle des Grammy Awards, non pas du palmarès, mais d'une critique de la part du rappeur Puff Daddy.
Il est énervé dans cette chanson. Alors celui que l'on nomme désormais Sean Love Combs, le rappeur attaque les dirigeants des Grammy Awards de ne pas respecter la musique noire à sa juste valeur. Lors de la pré-cérémonie des Grammy, il a reçu le prix de l'icône, comme chaque année. Alors lors de son discours, il a pointé du doigt la cérémonie en déclarant « Pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce qu'on a, c'est notre seul espoir. Mais le hip-hop n'a jamais été respecté par les Grammys, la musique noire n'a jamais été respectée par les Grammys comme elle devrait l'être. » Il a ajouté « Je veux dédicacer ce prix à Michael Jackson pour Off the Wall, Prince pour 1999, je vous le dis en français, Beyoncé pour Lemonade, Missy Elliott pour The Real World, Snoop Dogg pour Doggy Style, Kanye West pour Graduation et Nas pour Illmatic.
C'est des gens qui avaient eu le prix ou qui ne l'avaient pas eu justement ?
Non, justement, il le dit, je dédicace ce prix à ces gens-là.
D'accord. Un retour de deux masques, Jim Carrey n'est pas contre.
Eh bien oui, ce serait splendide. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y avait quelques rumeurs déjà. Le film sorti en 1994 avait rapporté 351 millions de dollars. Jim Carrey avait été nommé aux Golden Globes également. Lors d'une interview, l'acteur a été interrogé sur une suite éventuelle et voici sa réponse. Pour The Mask, tout dépendra du réalisateur. Vraiment, je ne veux pas le faire pour le faire. Mais je serais partant si c'était avec un réalisateur visionnaire et un peu fou. Alors, je rappelle qu'il y avait une sorte de suite en 2005 intitulée Le Fils du Masque. Et ce n'avait pas du tout marché.
Il faut prendre le fils du réalisateur. Nantes va vibrer au son de Beethoven.
À l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du compositeur et pour lancer surtout les festivités de la folle journée 2020, la ville de Nantes ne fait pas les choses à moitié. Mercredi, à partir de 20h30, donc à Nantes et dans l'agglomération nantaise, 11 pianistes vont jouer l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven. Les œuvres confessions du compositeur vont toutes résonner à l'unisson pendant cette soirée.
On y sera peut-être. Merci beaucoup Hélène Manarino. On vous retrouve tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
Europe 1, Culture Média. Média, Philippe Bondel.
Et Philippe, on accueille tout de suite Danny Boone.
Danny Boone, bonjour.
Bonjour Philippe.
Est-ce qu'il faut vous présenter, humoriste, comédien, réalisateur? Je vais donner juste un chiffre. Bienvenue chez les Ch'tis, plus de 20,5 millions d'entrées. Le premier film qui a battu les audiences de la Grande Vadrouille. Pas les audiences, les entrées de la Grande Vadrouille. Je parle même pas des audiences en télé. Je vais aussi citer Red Dingue, Super Chondriaque et la Ch'tis de Famille. Et là, vous revenez mercredi demain comme comédien dans le film Le Lion. Le Lion, c'est vous.
Le lion, c'est moi, et j'ai un lionceau,
ouais,
qui est Philippe Catherine.
Il faut raconter qui est ce lion, parce que c'est une histoire complètement dingue. Vous incarnez un mythomane complet, il s'appelle Léo Milan, il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, vous avez un psy qui vous soigne, c'est Romain, joué par Philippe Catherine, qui a l'air d'être encore plus dingue que vous.
En fait, il pense que je suis mytho, et puis j'annonce que sa petite amie, jouée par Anne Serra, va se faire enlever.
Ouais.
Et évidemment, il ne croit pas, puisque je suis en hôpital psychiatrique.
Et vous êtes complètement mytho quand même, ça on sait que c'est
non,
vrai.
Non,
on mais se si, vous êtes fou. Oui. Vous avez
mais
sauté d'une tour de 40 étages à Dubaï et vous êtes vivant. Donc vous êtes mytho.
Mais parce qu'il y avait une piscine en bas, qu'est-ce que ouais. c'est Mais enfin, Philippe Bandel, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Non, mais ce qui est génial dans ce film, je m'adresse aux auditeurs, c'est que pendant tout le film, on se dit « Waouh, c'est vrai, c'est faux, qui est le plus fou des deux ou des trois ?»
Bah, à un moment donné, le truc, c'est que comme sa petite amie jouée par Anne Serra se fait enlever,
ouais.
À ce moment-là, il se dit « Merde, il dit pas n'importe quoi. Mmh. » Donc il vient me voir en disant « Mais comment je fais pour la retrouver ?» Je dis bah, « Fais-moi sortir et je vais t'aider.
Ouais. »
Et là, ses ennuis démarrent.
On va entendre la bande-annonce et on parle des ennuis.
Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez.
Léo Milan, nom de code le lion.
Léo Milan n'existe pas.
C'est ma couverture. T'es un Bambi, toi, quoi.
Tu crois vraiment que c'est un espion?
Ouais, justement, je sais pas trop.
T'as là une camionnette de fleuriste au cul. Soit elle va se faire enlever, soit elle va se faire buter.
Non mais flippe pas, mon amour, hein. Le mec se prend pour James Bond. Vous aviez raison, Louise a été enlevée. Vous êtes pas un espion.
Règle numéro 1, ne jamais se fier aux apparences.
Arrêtez à la fin!
Règle numéro 2, ferme ta bouche, t'auras chaud aux dents.
Mais vous êtes sûr de vous, là?
Je l'ai déjà fait en Indo.
L'Indochine, c'était les années 60, vous n'étiez même pas né!
Qu'est-ce que t'en sais?
Alors, ce qui est complètement dingue, c'est la copine de Romain se fait réellement enlever, vous l'avez dit. Elle a vraiment une double vie, une connaissance parfaite de la cybercriminalité. On est à la fois dans Matrix et dans La Chèvre de Francis Weber. Sauf que, pour le coup, il n'y a pas un idiot et un malin, il n'y a pas un Auguste et un clown blanc. Vous êtes juste deux dingues. C'est ce qui vous a plu dans l'histoire.
En fait, ça s'équilibre. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui est le psy, qui est le, qui
ah
est
oui,
le
oui,
fou.
Oui, oui.
En fait,
même
avec,
dès le début.
Philippe, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Moi,
c'est-à-dire, le psy, c'est celui qui a la clé, normalement.
Ouais.
C'est comme ça qu'on le reconnaît.
Alors, ce qui est assez dingue, le mot est choisi exprès, c'est que vous êtes comme dans vos premiers spectacles où vous incarniez la folie.
Oui, c'est mon premier sketch, c'était ça. D'ailleurs, je rentrais sur scène de mon tout premier spectacle où je disais bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Je suis complètement guéri. Bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non mais je suis complètement guéri. Bonsoir,
voilà.
Je sors. Et je disais ça 15 fois et à la fin je disais non mais là je m'entraîne parce qu'en fait je sors peut-être demain. Et c'était la chute du sketch. Et les gens, il y a des gens qui quittaient la salle en disant c'est pas du one man show, c'est ouais. pas ça, c'est pas du stand up. Au revoir.
Ouais.
C'est terrible.
Moi, je travaillais ici dans ces locaux et c'est Stéphane Gâteau qui m'a dit il faut à tout prix que tu ailles voir un type. Il est complètement dingue. Il s'appelle Danny Boone et on n'arrive pas à savoir si c'est un comédien ou s'il est réellement fou.
Ah,
et
vous
je me souviens très très bien. Il disait ça avec admiration et on vous avez vu la carrière que vous avez fait. On va entendre un extrait. Pardon, vous êtes avec votre compère et vous allez retrouver Philippe Duquesne, un ancien des Deschiens. Il tient un héliport et pour qu'on voit comment ça fonctionne votre duo. Avec Philippe Catherine, vous avez besoin à un moment donné que Duquesne, qui est pilote d'hélico, vous emmène en hélico. Et c'est un ancien collègue à vous, mais sauf qu'il veut comprendre ce qui se passe. Et c'est Philippe Catherine qui lui explique ce qui se passe.
Qui a pris des amphétamines.
Mais t'étais où, je me croyais mort ?
Le roi de la jungle s'en sort toujours. Je te présente mon pote Romain, psychopathe.
Psychiatre ?
Oui, c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. Psychiatre, c'est un médecin. Et psychopathe, c'est un peu comme vous.
Laisse tomber, c'est un camé.
Ah oui, d'accord.
Alors comme ça, vous connaissez bien le lion ?
Oh, ça fait 10 piges. À l'époque où j'étais encore de la maison, il explosait les chiffres. Un vrai tueur.
Oui, bah allez, on est pressé. Faut qu'on aille à Paname.
Ouais, ouais. Ouais, faut qu'on aille sauver ma nana. Elle est en train de casser la Banque de France avec des terroristes pékinois. Elle dit qu'elle s'appelle Louise. Mais en fait, ça s'appelle Jessica. Mais elle est plus connue dans le milieu sous le pseudo de Solo. En fait, c'est compliqué.
Ouais, bah aujourd'hui, ça va être impossible, hein, parce que c'est la Fashion Week. J'attends des clients.
Hein? Allez, en souvenir du bon vieux temps, là, quand vous descendiez l'Himalaya, les yeux bandés avec tes singes au cul.
Qu'est-ce qu'il raconte, ce con?
Mais c'est juste complètement dingue.
Oui, ça, à ce moment-là, il est sous amphétamine.
Ouais, ouais, ouais. Philippe, c'est bien de le dire.
Il faut le préciser, ouais, ouais, son personnage.
Et juste un mot, une question rapidement à propos d'Hôpital Psy. Vous aviez déjà rencontré des personnes qui souffraient de troubles mentaux quand vous aviez tourné avec Julie Delpy?
Ah oui, mais dans le métier aussi. Hein. pas que dans les hôpitaux psychiatriques. Dans le cinéma, dans le théâtre.
C'est vrai.
Ah, il y en a beaucoup.
Et ça se soigne ou pas?
Ah bah non, ceux-là sont en liberté. Hein. Ils ont même certains ont du pouvoir. C'est embêtant. Danny... Quand on leur dit, s'il vous plaît, allez, faut aller dans la chambre. Attends, ils refusent. Non, j'en avais rencontré. Bah, évidemment, non, mais souvent, la frontière est ténue. Ouais. Je veux dire, c'est...
Danny Boone, en liberté, il reste avec nous.
Dans Le Lion, Danny Boone, vous jouez un espion que personne ne croit. Eh bien, nous, à Europe 1, on en a un aussi. Enfin, une, plutôt. Notre espionne, c'est Hélène Manarino. Et vous allez entendre avec son portrait inattendu de vous qu'on ne peut que la croire. À elle, alors surtout, reste avec nous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et tout de suite, Philippe, c'est le portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Danny Boone, je ne vous demande pas si vous connaissez Hélène Manarino. Je sais que vous y êtes vu sur la scène de l'Alpe d'Huez.
Tout à fait.
Voilà, c'était votre première rencontre.
Oui, on ne se connaissait pas.
Voilà, voici la deuxième. Mais cette fois-ci, elle a des dossiers.
Ah, très bien.
Bonjour, Danny Boone.
Bonjour Hélène.
Deux ch'tis l'un en face de l'autre. Nous sommes donc en majorité, ça fait du bien. Alors Danny Boone, je suis là pour dévoiler des choses que l'on ne connaît pas forcément de vous. J'ai mené une longue enquête, mais comme tout ch'tis qui se respecte, on ne lâche rien. C'est votre cas, vous aussi. Alors, avec la discrétion, la pudeur de votre papa, la folie et l'humour de votre mère, Danny Boone, Danou, Dan parfois, comme le disait votre idole Raymond Devos, vous adorez être pris en flagrant délire. Et il y en a, et il y en a eu. Avant de remonter le temps et de se balader dans votre enfance, faisons un constat aujourd'hui. Danny Boone, vous pourriez être le président de l'Union des hypochondriaques du monde. Vous avez le numéro personnel de votre médecin que vous appelez entre 20h30 et 6h. En cas d'épidémie, vous allez manger chez lui. Et vous y restez très très tard pour être à ses côtés, et oui, au cas où, mais vous aimez surtout prendre soin des autres. Votre nouveau délire à vous, c'est le véganisme. Ça y est, vous êtes devenu vegan grâce à un documentaire Netflix.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Il faudrait que vous regardiez un documentaire sur le téléphone portable, puisque vous êtes accro, il ne vous lâche jamais. Alors vous en aviez deux, donc maintenant plus qu'un. Ouf, mais vous avez toujours gardé deux cartes SIM. En revanche, les écouteurs ne sont pas vos amis. Vous les changez pratiquement toutes les semaines. Un téléphone qui vous sert surtout à regarder les informations et à partager tous les articles les plus étranges à vos proches. Vous pouvez aussi les lire à haute voix, être au courant de tout, tout le temps. Voilà ce qui vous anime aussi. Fan de golf, très bon joueur. Vous émerveillez devant les belles voitures, Danny Boone. Mais vous avez toujours été marqué par l'émerveillement. Chose que vous n'avez donc jamais perdue. Il vous arrive par exemple de rencontrer des gens connus, de demander un selfie et de le montrer à vos amis en étant très fier.
C'est vrai ?
Oui, bien sûr. Oui.
Avec qui vous avez demandé un selfie ?
J'ai fait un selfie avec Tiger Woods.
Ouais. Ah oui. Avec Tiger Woods, évidemment. Et le avec, grand golfeur.
Avec Zinedine Zidane.
Même pas connu.
C'est qui ? Âme d'enfant.
Avec Zidane aussi, oui.
Âme d'enfant, sûrement, elle vous colle à la peau, ne serait-ce que dans votre pseudo, qui vient de Daniel Boone, un explorateur, personnage de dessin animé. Mais Danny Boone, si on s'intéressait à vos premières fois. Votre premier film, à l'âge de 15 ans, il s'intitulait « Une nuit au musée », l'histoire d'un gardien de musée qui se baladait et qui voyait les objets et les œuvres prendre vie. Vous étiez au lycée.
Oui, c'était un dessin animé, c'était
en pâte à modeler.
On faisait de l'animation, image par image, ouais, avec une caméra Super 8. Ouais.
D'ailleurs, côté cinéma, vous aviez créé quelque chose d'assez atypique. Tous les matins, vous racontiez à vos amis du collège le film que vous aviez vu la veille. Ces amis qui vous enviaient beaucoup, car eux, ils n'avaient pas le droit. Sauf que, rien n'était vrai. Vous inventiez tout. Et vous aussi, vous n'aviez pas le droit de regarder les films.
Ah, c'est génial.
En fait, c'était sur la RTBF qu'on captait la RTBF. On était à la frontière, ouais. Et papa, mes copains. Et on pouvait voir le début. Et mes parents disaient, allez au lit maintenant. Mmh. Donc j'étais très frustré de ne pas voir la suite du film. Et je l'inventais en allant
c'est
me coucher.
Génial. Et parfois,
je
c'était
la
mieux.
Racontais le lendemain.
Et parfois, c'était mieux que le film, j'imagine.
Bah, quand on est enfant, c'est toujours mieux ce qu'on raconte.
Alors, tout le monde vous croyait, ou peut-être savait-il secrètement la réalité des choses, mais ils aimaient se laisser embarquer par l'univers de Danny. En revanche, vous aviez des petits stratagèmes pour regarder la télé, notamment ça.
Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens.
Tous les soirs, quand vous rentriez de l'école, vous vous arrêtiez devant une maison et vous colliez votre nez à la fenêtre pour regarder Goldorak.
Exactement.
Chez les gens, oui. Sans le son.
Sans le son.
On s'en fout.
Oui, oui, on était comme ça, mais on s'est fait engueuler même.
Bah, je sais. Votre premier sketch intitulé La brosse Evidie, un sketch sur la brosse à dents. Et vous étiez en quatrième.
Oh, ouh là là, wow. Mais comment vous... Mais je ne m'en rappelais même pas.
Ben, je suis là pour vous rappeler
ça,
votre
ça revient
enfance.
Là. Oh merde.
Danny Boone est scotché.
Ah oui, oui.
Alors évidemment, votre univers était assez secret. Votre monde, vous l'aimiez, vous le rêvez, le créez, l'envisagez. Au bout de votre rue, la rue Blaise Pascal, il y avait un arbre. Et c'était votre refuge, Danny
oui,
Boone.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est peut-être là que vous avez créé votre premier disque, Yogurt Collection. Il y avait 5 exemplaires enregistrés chez votre pote Philippe. Votre maman en a un, d'ailleurs. Alors, je précise que vous êtes un très très bon musicien, très bon pianiste, guitariste, et peut-être que vous auriez rêvé d'être chanteur, d'ailleurs. Alors, une enfance où vous avez tout tenté, tout expérimenté, le mime dans les galeries marchandes, le week-end. L'une de votre première grosse culture aussi, un bonhomme de neige de 3 mètres de haut que vous avez jeté dans la rivière à côté de chez vous.
Oui, c'est vrai.
Et 2 mois après, il flottait encore.
Mais c'est vrai. Oh là là, c'est dingue, les souvenirs qui remontent. Oui. Mais c'est incroyable, c'est la ch'ti touch.
Ouais, oui, la ch'ti touch, exactement. Mais rien ne vous faisait peur, vous avez toujours vu les choses en grand, même dans votre première grande bêtise, lorsque vous avez décidé de descendre la pente du pont à côté de chez vous, sur le capot d'une voiture.
Oui.
Malheureusement, votre main est passée sous le capot et vous êtes brisé le poignet. Bon, ça c'est pas drôle. Mais Danny
Boone... C'est cassé le bras, oui. En plus, j'ai rien dit du tout, j'ai couru, je cours quand j'ai mal encore aujourd'hui, et je me suis évanoui, j'avais le poignet cassé, oui.
Mais Danny Boone, tout le monde savait que vous alliez partir un jour pour la première fois vivre votre rêve, être artiste. Même votre professeur d'espagnol, monsieur Marfalan, qui vous balançait des craies et des brosses en classe, le savait. Et on arrive à votre premier départ pour Paris, après avoir chanté dans les bars à tourner, à faire de la guitare, faire rire l'assemblée. Vous êtes arrivé à Paris, mais départ raté, puisqu'une déception amoureuse vous a fait repartir. Et il faut préciser que vous êtes un grand, grand romantique. Rien d'étonnant que votre chanson préférée du moment... ce soit celle-ci.
J'aimerais tant te parler tendre un soir d'hiver au coin d'un feu, te dire des mots à pierre fendre, à fondre la banquise des yeux. J'aimerais.
Vous êtes scotché.
Mais comment tu sais ça?
C'est quoi cette chanson?
C'est Julius Bocarne. C'est une chanson absolument magnifique. Chanson d'amour très belle.
Il faut la connaître. Hélène.
Romantique, sensible, rien ne peut vous émouvoir. Et puis il y a eu votre première fois au cours Simon, 3 mois, juste 3 mois. Et l'affaire était faite, vous avez donc pu profiter de votre QG, la cloche dans le 9e arrondissement, pour encore une fois refaire le monde, comme si c'était la première fois en écoutant ça. Charlélie Couture, alors Danny Boone, homme fidèle, même avec cette grande vie qui est la vôtre, vous n'oubliez pas votre Nord-Pas-de-Calais et comme le dit cette fameuse chanson, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors et le vôtre, il est resté intact.
Merci, c'est magnifique, c'est très émouvant.
Mais oui, j'ai vu que vous étiez ému,
oui,
je vous ai rarement vu comme ça.
Mais c'est vrai,
ouais.
Mais oui. Mais je vais couper Siri sur mon téléphone.
Vous restez avec nous, l'émission continue.
Ok.
Merci beaucoup, Média. Hélène.
Continue avec vous, Philippe Vandel, mais avec aussi votre invité du jour, Danny Boone. Et puis avec Angèle, qui viendra nous présenter un chanteur 100% breton. Et Mathieu Charrier, qui lui, nous parlera des sorties cinéma de la semaine. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Angèle Châtelier vient de nous rejoindre et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va se sentir en Bretagne. Il y a aussi Mathieu Charrier et bien évidemment votre invité Philippe Danny Boone.
Pour le film Le Lion, en compagnie de Philippe Catherine, je l'ai dit, c'est un film d'espionnage, c'est un film de fou parce que c'est un type qui se prétend être agent secret mais qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique et il fait une espèce de sarabande avec son médecin soignant qui a l'air encore plus dingue que lui. Mais c'est aussi un film d'action. Il y a des cascades dingues. C'est vous qui les avez faites et...
J'ai réalisé la plupart des cascades, effectivement.
C'est non, quoi non, la oui, plupart?
Ah bah,
non mais c'est pas vous qui vous garez en faisant des 180 au frame.
Ah si, j'ai fait.
C'est pas vrai.
Non, j'en ai fait quelques-uns. Les ratés, c'est pas moi.
Non, parce qu'il faut dire, il y en a des réussis et des ratés.
Voilà.
Non mais il y en a des géniales. Non mais la première, c'est vous qui l'avez faite à Dubaï avec la 504.
À Dubaï, pas entièrement. Si,
parce qu'elle est quand même magnifique, faut dire.
Oui. Oui, c'est vrai, elle est très belle. Ouais.
Et c'est vous qui pilotez l'hélico? Non.
J'ai piloté l'hélico. Oui.
C'est pas possible.
J'ai pas décollé, atterri. Non,
ouais.
Ça non, mais en l'air. Oui, j'ai 10 heures de cours, ouais. En vol, et puis j'avais le pilote instructeur qui tenait le truc, mais comme il fallait que ce soit avec le texte, j'avais effectivement
le manche.
Et je faisais comme ça. J'ai même fait vomir le réalisateur. Au lieu de dire couper, j'ai entendu qu'est-ce qui se passe.
Et les cascades et Philippe Catherine qui se viande à vélo, c'est truqué, c'est lui, c'est quelqu'un d'autre.
Sur la voiture, c'est pas lui, c'est Kevin Conseil. Mm-hmm. Voilà,
non, mais quand il tombe à vélo. Comment Philippe Catherine.
Ah, quand il est tombé. Non, il tombe il s'est fait mal, c'était pas prévu.
Ah merde, pardon.
Il freine du frein avant, cet abruti.
Forcément.
Et donc, il fait un soleil, il fait un très beau soleil.
Et la prise, on la voit ?
Oui, bien sûr. Je l'ai même mis sur mon Insta.
Ouais.
Et voilà. Non, mais d'ailleurs, quand c'est arrivé, tout le monde était en panique en disant oh mon Dieu, ça va, Philippe, ça va. Puis après, tout le monde s'est changé la vidéo. C'est l'âme humaine et comme ça.
Votre doigt, ça va mieux ?
Oui, j'ai eu j'ai eu le doigt luxé, l'index à l'envers.
C'est horrible.
Que j'ai remis instantanément.
Tout seul.
Et non, sur le moment, quoi. Non, dans une bagarre. Parce qu'on a chorégraphié les bagarres et donc c'est comme une danse, quoi. Et donc à un moment donné, il faut aller à droite, à gauche et quand on se gourre, on s'en prend une et la main, le doigt est parti dans l'autre sens.
Ouais. Je pose une question dont je déteste la réponse. Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, parce que je savais que vous étiez fait mal. Bonjour Angèle Sertelier.
Bonjour.
On va s'envoler, on va quitter les doigts luxés. On va s'envoler pour les terres bretonnes aujourd'hui avec vous, Angèle.
Oui, alors Danny Boone, vous êtes du Nord. Moi, je suis normande, enchantée. Et aujourd'hui, on dit bonjour à Trégastel, à Lorient, à Paimpol, bref, à l'ensemble de la Bretagne, parce qu'on part dans leur terre avec le maître et fervent défenseur de la musique celtique, j'ai nommé Alan Stivell. On les voit partout. En festival, il y a toujours au moins 3 drapeaux de la Bretagne qui surplombent la foule, généralement. Dans les conflits régionaux aussi, avec ceux qui veulent une réunification de la Bretagne. Et maintenant, ceux qui défendent un emoji breton. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Philippe.
J'ai suivi cette affaire.
Voilà. Et depuis 50 ans, Alan Stivell représente la culture musicale bretonne. Il sera aux côtés de grands artistes du genre, Dan Arbraz, Gilles Servat ou encore Red Cardel, le 7 mars prochain, puisqu'il y aura la Nuit de la Bretagne organisée dans la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena, plus de 30 000 places.
Et 30 000 places complètes, ces prix ?
Alors, pas encore, mais sachez qu'il y a des cars qui sont prévus depuis la Bretagne pour venir dans la capitale, parce qu'il y aura quand même 4 heures de concert, de danse et de mélange des genres. Alan Stivell, il fait partie de ces musiciens qui ont révolutionné la musique bretonne et qui lui ont donné un sens un peu plus moderne, il faut le dire, des tonalités plus actuelles. On le dit aussi précurseur et créateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la world music, l'idée de marier différentes cultures musicales.
Avant même que je commence à chanter, j'avais cette idée en fait de dire voilà, pour moi chacun va montrer son originalité parce que justement quelque chose qui vient de chez lui en fait, mais ce chez lui avec évidemment une ouverture sur le reste du monde. Donc moi c'est mon centre à moi, c'est la Bretagne et le monde celtique, mais et l'univers entier tout autour et tout m'intéresse dans le monde autour. Et du coup un peu comme un chef cuisinier en fait, il y a un petit peu toujours de dire tiens, qu'est-ce que je pourrais chercher comme innovation, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en fait. Parce que la musique en général, c'est la musique et c'est toutes les musiques qui m'intéressent et sont bonnes à utiliser.
Passer les bâmes et les organes aux cigarettes, songer dans bas Hollywood, croire et bas western.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la culture musicale bretonne dans la musique d'aujourd'hui en 2020?
C'est un peu plus tendance à certains moments, par exemple. Et moi, il y a eu bien sûr déjà le début des années 70 qui a été très très fort, mais après, j'ai eu la chance d'une relance un petit peu du début des années 90, et puis après, ça a repris encore, etc. Et à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui vont. Il y a le moment, par exemple, où tous les artistes de variété français ont mis un morceau celtique. Alors, est-ce que ça va se passer encore à nouveau ? On l'espère.
Alan Stivell, il a quand même travaillé pendant sa carrière avec de grands artistes de tous les genres, comme Kate Bush, l'une des plus grandes artistes de pop. Il a aussi collaboré avec Youssou N'Dour, Jim Kerr du groupe de rock Simple Minds ou encore John Cale, l'un des membres des Velvet Underground.
Down the floor, down the lane, down
Alan Sivel fait maintenant face à un nouveau défi, celui de marier musique bretonne et rap, le genre le plus écouté aujourd'hui. Il l'a déjà un peu fait, mais il réfléchit maintenant à faire des duos avec les rappeurs qui font maintenant l'actualité musicale.
Pendant qu'on entendait la musique, Danny Boone disait, c'est quoi cette musique? C'était quoi? C'était Alan Sivel?
Tout était Alan
Sivel. Alan Sivel, ouais. Ça vous plaît, Danny?
Ah oui, c'était intéressant, le côté un peu rap. Là,
ouais,
là,
avec le...
ouais, c'était... C'est chouette.
Hein. il mélange absolument tout, Alan Sivel.
Vous écoutez quoi comme musique en ce moment?
Du jazz, ouais. Gregory Porter, beaucoup.
Ouais.
Voilà.
Très très bon enchaînement. J'ai bien fait de poser la question une fois encore. Pardon, comme ça, oui. C'est bien tombé.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe, un acteur bien connu des Français, Danny Boone, mais il y a aussi Angèle Châtelier et Mathieu Charrier qui vient nous donner les sorties cinéma de la semaine.
Mais oui, un journaliste bien connu des Français également, Mathieu Charrier.
Mathieu Danny Boone, cinéma. Mais...
Vous démarrez demain, c'est mercredi, donc les sorties cinéma, oui. Et vous démarrez votre sélection par le nouveau film d'Olivier Assayas, porté par Penelope Cruz, que vous avez rencontré
et
d'ailleurs.
Oui, le film Chance. S'appelle Cuban Network et le réalisateur français revient, vous savez, sur cette affaire qui a fait la une de l'actualité. On est au début des années 90, des émigrés cubains organisent depuis Miami la résistance contre Fidel Castro. Alors ils planifient notamment des attentats contre les infrastructures touristiques de l'île afin d'essayer de l'étouffer économiquement. Le président cubain décide donc de réagir et il envoie plusieurs agents secrets infiltrer ce groupuscule. Ils seront finalement arrêtés par le FBI et jugés par les autorités américaines pour espionnage, mais c'est eux que l'on va suivre. Alors on n'est pas dans un film d'espionnage à la James Bond, ici tout est beaucoup plus secret, ancré dans le quotidien. Assayas s'attache à suivre plusieurs personnages, dont celui d'un pilote joué par Edgar Ramirez, et de sa femme, donc c'est Penelope Cruz.
Normalement, quand vous regardez un film sur les espions, vous pensez surtout à la forme, à une sorte de caricature. Mais Olivier, lui, a fait en sorte de ramener l'histoire à un niveau humain. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces espions, dans leur vie de tous les jours? Comment leur métier affecte leur relation avec leur fille, avec leur femme, leur famille, leurs amis?
Et vous étiez déjà allé à Cuba, vous?
Non, c'était la première fois. Et j'ai été vraiment choquée. En fait, je savais ce qui s'était passé là-bas. Mais quand vous voyez tous ces gens dans la misère, je devais leur poser plein de questions pour comprendre mon personnage et mieux comprendre le conflit avec les États-Unis. Mais quand les gens me répondaient « Désolé, je ne peux pas partager ça avec vous parce que j'ai peur d'exprimer mon opinion », j'étais choquée. Parce que je me disais « On est en 2019 et ils sont obligés de me répondre ça ». C'est dur à entendre. C'est dur à voir.
Voilà, et c'est le double intérêt de ce film, construit comme un thriller de plus de 2 heures. Il est d'un côté très pédagogique, donc sur cette histoire des espions cubains. Et puis dans le même temps, on voit aussi la réalité de la vie sur l'île, de la pauvreté. Olivier Assayas y tenait, il a tourné près d'un mois sur place. Cuban Network est donc un film complet et captivant.
Et alors, deux comédies françaises sortent cette semaine, à commencer par Le Lion, dont on parle avec Danny Boone. Attention, la question qui tue. Mathieu, vous en avez pensé quoi?
J'ai pas du tout aimé, c'est le mec.
je vais vous mettre un tour de clé à la porte pour pas que Danny Boone s'en aille.
Allez-y. Écoutez, très efficace, construit sur ce bon vieux principe du duo, le soumis, le violent. On pense évidemment à Depardieu et Pierre Richard. Alors en l'occurrence, c'est Philippe Catherine qui se fait maltraiter par Danny Boone. Bravo monsieur.
Merci.
Si vous aimez ce genre de la comédie française d'action qui ne s'arrête pas une seconde, n'hésitez pas. A contrario, sort également L'Esprit de famille d'Éric Bénard avec Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasco. Là, c'est l'esprit du père qui vient de décéder, qui est toujours là. Ressort scénaristique classique du fantôme qui vient hanter les vivants. Il y a quelques jolis moments, mais globalement, ça patine. Il faut bien le dire, on trouve le temps un petit peu long.
Et puis enfin, sort un film au titre et à l'affiche étrange. Ça s'appelle Jojo Rabbit. Et sur l'affiche, on voit notamment Hitler.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors écoutez le pitch. Jojo, c'est un petit Allemand que l'on retrouve au début du film dans un camp de la jeunesse nazie. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. On lui demande de tordre le cou à un lapin pour le tuer. Il refuse et il devient donc Jojo Rabbit, Jojo le lapin. Il parvient à s'enfuir, on le retrouve chez lui. C'est un fervent nationaliste, puisque son meilleur ami imaginaire, que l'on voit à l'écran, donc c'est Hitler, rien que ça. Il discute avec lui, il plaisante. Alors, quand il découvre que sa maman cache dans les combles de la maison une jeune juive, Jojo est complètement déboussolé. Vous l'aurez compris, on est dans la satire et dans un film sur fond de comédie, mais qui dénonce surtout les nationalismes, l'endoctrinement, le fanatisme, quel qu'il soit d'ailleurs. À la réalisation et dans le rôle d'Hitler, Taika Waititi, ce jeune néo-zélandais qui avait dépoussiéré les films de vampires avec Vampire en toute intimité, puis de super-héros en réalisant Thor Ragnarok.
La première fois que j'ai proposé ce script, c'était en 2011. On n'était pas encore dans la période de crimes de haine ou de discours de haine que l'on connaît aujourd'hui. L'idée d'alors, c'était plutôt de voir la guerre à travers les yeux d'un enfant. Puis je suis revenu à ce script en 2017. Et là, la Fox m'a dit, on a vraiment besoin de faire ce film vu la merde en ce moment, c'est le moment de le réaliser. Je ne pense pas que ce soit vraiment une comédie, c'est plus un drame, mais que l'on peut montrer aux enfants dès l'âge de 10 ans. Ce genre de film, ça les fait réfléchir, ça les encourage à penser par eux-mêmes, et c'est très important.
extremely important.
Voilà, alors on est dans un univers décalé, on pense notamment à Wes Anderson au niveau esthétique. Jojo Rabbit qui divise, certains créent au négationnisme, car évidemment Hitler en meilleur ami d'un petit garçon, ça le rend plus sympathique. D'autres louent ce principe traditionnel hein, de jouer avec l'horreur pour mieux la dénoncer. Moi je dis allez vous faire votre avis, Jojo Rabbit sort donc demain. Et puis d'un mot, je vais également vous conseiller un documentaire qui s'appelle L'histoire d'un regard, qui revient sur la vie et la mort de Gilles Caron, qui est un photoreporter que vous avez connu Philippe, décédé en 70 au Cambodge, il avait 30 ans. Et la réalisatrice...
Non, je ne l'ai pas connu, j'avais 8 ans en 70, mais je connais son travail.
On avait parlé longuement hier, c'est pour ça que exactement. La réalisatrice Mariana Otero s'adresse à lui dans le film en voix off, elle lui parle, c'est bon, on découvre aussi un homme, on découvre la page de l'histoire à travers ses photos, ça s'appelle donc Histoire d'un regard, allez-y si vous aimez ce genre de documentaire.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, vous avez le temps d'aller au cinéma Danny Boone ?
Oui, bien sûr, je vais le matin très tôt dans les cinémas Pathé, parce que je travaille avec Pathé, je suis sous contrat avec eux. Et donc,
ils organisent des projections pour vous ?
Oui, très gentiment.
Pendant vos tournées.
J'ai vu 1917 en tournée à 9h du matin. Donc je vais le soir jusqu'à 1h, on fait des débats avec les gens dans les cinémas. Et je retourne à 9h du mat, dans l'odeur de pop-corn, pour voir des films.
Parce qu'il faut préciser que Danny Boone, il fait des énormes tournées province. Hein. C'est-à-dire que quand vous sortez un film, vous allez dans des dizaines et
sur
des dizaines
films,
de villes.
Sur mes films, on fait pratiquement 2 mois. Ouais. Mais là, on a fait 3 semaines, mais on aurait bien aimé en faire un peu plus. Mais on n'a pas eu la copie assez tôt.
D'accord. 1917, vous le recommandez ?
Ah oui, c'est un film très fort. Ah, bah, attention, pas les enfants, mais parce que le film est quand même assez dur, mais c'est impressionnant. Ouais. C'est un bel hommage de Sam Mendes à son grand-père.
Et je dis pas ça parce que c'est un film européen. Vous restez avec nous, Danny Boone.
La dernière partie de Culture Média arrive dans un instant. Aujourd'hui, c'est Danny Boone qui est avec nous, alors ne bougez pas sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Suite et fin de Culture Média avec toujours autour de vous Philippe Vandel, Angèle Châtelier et bien sûr votre invité Danny Boone qui est à l'affiche du film Le Lion qui sort demain.
C'est un film de Ludovic Colbeau-Justin, on ne l'a pas encore dit, c'est avec Philippe Catherine. Vous êtes baraqué dans le film, vous avez fait de la muscu ou c'est un trucage ?
On a fait une formation physique tous les deux, Philippe et moi. Alors moi j'ai fait 6 mois de muscu.
Je souris parce que ça se voit moins sur Philippe Catherine.
Ah, il a fait que 2 heures lui. Puis après, il était fatigué.
Mais les pompes claquées,
il était soufflé.
Les pompes claquées, vous les faites pour de vrai ?
Elles sont vraies. Oui, elles sont vraies. Oui.
D'accord, il n'y avait pas une doublure.
Non.
Le réalisateur Ludovic Colbeau-Justin, que je venais de citer, a raconté qu'il avait rarement vu quelqu'un d'aussi pro que vous. Vous avez même continué à travailler sur le film pendant la post-production.
Oui.
Vous allez voir quoi ? Le montage, le son, le mixage ?
Non, mais s'il me demande mon avis, je le donne.
Ouais.
Voilà, ouais, bien sûr.
Parce que normalement, après, les gens, ils s'en vont, les comédiens.
Non, pas moi.
Pas vous.
Mais je voyage avec le film aussi. Je pars pour la sortie en Espagne, là, et puis dans les autres pays. Parce que c'est important.
On dit que sur un film, il n'y a rien de plus difficile, de plus imprévisible en tout cas, que tourner soit avec des animaux, soit avec des enfants. On pourrait ajouter Philippe Catherine, commencer de tourner avec lui.
C'est exactement ça. Ah oui.
Je me suis dit ça ce matin en écrivant la question.
Mais c'est exactement ça.
Mais racontez comment il est sur le tournage.
Mais il est lunaire, quoi. Il a une très belle âme, je trouve. Il est très drôle. Il est très drôle dans le film, d'ailleurs. Mm-hmm. Et on s'est vraiment trouvé, quoi. Il y a eu quelque chose de très fort entre nous. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas conscience de où est la caméra, comment ça se passe. Il est un peu...
Mais par exemple, expliquez pour les gens qui ne connaissent
pas
bien le cinéma.
On nous dit, voilà, il faut courir parce qu'il y a une course-poursuite. Ouais. Et vous cavalez, vous entrez dans le champ par la gauche, vous ressortez par la droite en courant. Lui, il s'arrête avant de sortir par la droite. Et donc, il s'arrête, il fait « C'était bien !» Et le réalisateur dit « Cours, sautez, pas dehors !»
Et donc, toute la scène est plantée pour tout le monde.
On doit tout recommencer. Mais c'était systématique.
J'adore. Juste un mot, et quand il... Non, ça c'est un trucage, quand il se tape la vitre, quand vous conduisez comme un dingue avec la petite Fiat.
Il s'est tapé la tête. Non, il se tape la tête, oui.
Dans la voiture.
Bon, il s'est pas fait trop mal.
D'accord, d'accord.
Mais on s'est... Oui, on a eu des... Parce qu'on fait des cascades dans le film, parce que c'est une sorte de parodie de James Bond, quoi, un peu. Mais...
Il y a un côté Matrix, avec des ordis qui font du bruit bizarre.
Avec deux abrutis qui sont là. Enfin, on fait ça, c'est clownesque, en fait. C'est des chutes pour faire rire les
clownesque
enfants,
ou pas,
les grands-enfants.
J'ai retrouvé un papier dans VSD, septembre 2003. Vous avez raconté que vous avez failli rater votre permis de conduire parce que le jour de l'examen, vous savez ce que vous avez fait ?
J'ai raté le créneau.
Ça oui, mais ça c'est pas important.
Et j'ai évité un piéton qui traversait.
Ah, alors vous voulez raconter différemment, il a pilé un feu vert.
J'ai pilé, non c'est moi qui ai pilé. Ouais,
ouais mais que personne parce pile que un feu vert.
Oui, j'ai pilé un feu vert parce que quelqu'un traversait.
Ah, et
l'examinateur s'énerve contre moi. Et je dis, il fait, mais pourquoi vous venez, j'ai fait ça. Je dis, mais regardez, là. Et il a vu, il dit, ah, très bien, on rentre. Et j'avais mon permis.
Vous dites recevoir un à deux scénarios par semaine, à ce point.
Oui, c'est
vous
ça.
Vous lisez tout. Comment vous faites pour tout lire et comment vous choisissez?
Je lis. Bah si, en fait, ça va. Si j'aime pas, ça va assez vite. Comme bon. Évidemment, je reçois des. On reçoit de tout.
Bien sûr.
Je lis 30 pages et si j'aime pas, j'arrête, quoi. Ouais. Mais. Ou je lis en diagonale et jusqu'à la fin. Sinon, je lis pratiquement tout, ouais. Oui, bien sûr.
Et c'est vous qui lisez?
Oui, enfin, après mon agent Cécile Felsenberg, que j'embrasse, fait un tri aussi. Je reçois des choses en direct. Enfin, c'est un peu. Des choses en anglais.
Votre prochain film, c'est quoi? C'est l'histoire d'un petit village?
C'est l'histoire d'un village en zone blanche. Voilà, c'est tout un village, dont un maire, avec un maire en tête, qui se battent pour essayer d'être relié au réseau.
Ouais.
Et d'avoir enfin Internet,
téléphone portable.
Ouais, ils ont pas
de portable. C'est votre angoisse, en fait, j'ai compris. En fait, superchondriaque. C'est parce que vous êtes hyperchondriaque, c'est votre angoisse. Et votre angoisse, c'est de ne pas avoir de réseau.
En fait, là, c'est leur angoisse, c'est la vie du village avant et après qu'ils aient enfin l'antenne. Et voilà, et ils regrettent un petit peu.
Voilà. Ça va sortir quand, on le sait ou pas?
En 2021, donc.
Oh mon Dieu, dans un an de Danny Boone, si vous le retrouvez, il ne faut pas attendre 2021, c'est demain. Ça s'appelle Le Lion, c'est avec Philippe. Sauf qu'il y a. Non, je dis pas. Je dis pas s'il y a des lions ou pas de lions dans le film. Je le dis pas. C'est avec Philippe Catherine. Merci d'avoir été avec nous. Merci Angèle Châtelier.
Merci
beaucoup
Philippe.
Justine. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Monsieur Poulpe, le monsieur de Canal+, qui fait des blagues, et Jean-Louis Aubert, qui sera là. Bah tiens, justement, téléphone. Tiens, humour. À demain. Merci. Bonne journée sur Europe 1.
Merci Philippe Bandel. Anne Romanoff et toute son équipe arrivent dans un instant. Aujourd'hui, ils reçoivent Mathilde Amé et Marc Simoncini. Bonne journée avec Europe 1. Oui.